Radio Cité Genève.
Cité Culture. Épiphane Amonfo.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à notre écoute. Dans cet autre numéro de Cité Culture, nous avons rendez-vous avec la pianiste et compositrice suisse Béatrice Berru avant son concert donné le 4 juin dernier, donc au Temple de la Madeleine, où elle a performé dans le cadre de la 13e édition des Athénéennes. Bonjour Béatrice Berru.
Bonjour.
Nous sommes le 4 juin, jour de l'enregistrement de cet entretien. Il est un peu plus, on va dire, de 17h, justement, on entend sonner ici au Temple de la Madeleine. Et dans moins de 3 heures, vous serez sur scène pour le Festival des Athénéennes. La semaine écoulée, vous étiez au Schubertiade à Tonnet. Comment vous préparez-vous avant chaque spectacle? Y a-t-il une différence?
Oui, ça dépend en grande partie du répertoire que je vais jouer. La plupart du temps, je joue du solo. Alors dans ce cas, mon travail c'est uniquement seul avec mon instrument. Des fois j'ai des amis qui font les cobayes pour que je puisse jouer mes œuvres une fois avant de les jouer sur scène si elles sont nouvelles. Autrement, si je fais du concerto, je vais un ou deux jours en avance dans la ville et je répète avec l'orchestre. Et puis si je fais de la musique de chambre, comme c'était le cas par exemple au Schubertiade de Tonnet, et bien là je vais aussi un jour en avance, on répète tranquillement ensemble entre musiciens et puis après on se lance.
Et pour le spectacle donc de tout à l'heure, vous allez jouer vos propres compositions, qu'en est-il ?
Oui, tout à l'heure, je vais jouer mes compositions qui s'appellent les Untold Tales, les contes qu'on ne raconte pas. Et une paraphrase que j'ai écrite sur une très très grande et magnifique œuvre de Arnold Schönberg qui s'appelle La Nuit Transfigurée, qui est une œuvre qu'il a écrite à l'âge de 24 ans en 2 semaines, une œuvre encore très post-romantique. On associe souvent Schönberg à la musique dodécaphonique, bien sûr parce qu'il l'a inventée, mais en fait avant ça il écrivait une musique qui était très très belle, très abordable aussi pour l'auditeur et très proche peut-être du jeune Strauss ou voilà, cette école germanique de la fin du 19e.
Et justement, votre interprétation et paraphrase de La Nuit Transfigurée de Schönberg ont été saluées par le fils du compositeur. Pouvez-vous nous parler du processus créatif de cette œuvre ?
Oui, alors en fait, le jour où j'ai entendu cette œuvre pour la première fois, j'ai eu un tel choc esthétique, je me suis dit « zut, ça j'aurais vraiment voulu la composer moi !» Je suis vraiment tombée amoureuse en fait. Et je me suis dit « mais le pire dans l'histoire, c'est qu'en étant pianiste, comme elle a été écrite pour sextuor à cordes, en fait j'aurais jamais aucune chance de l'approcher cette œuvre. » Du coup, pendant le Covid, j'ai eu le temps de me mettre à la transcrire et je me suis embarquée dans un chemin qui n'a pas eu beaucoup de succès. J'ai essayé de rester très proche de la partie des 6 instruments et en fait, ça sonnait super mal au piano. Et finalement, je me suis dit, non, alors laissons tomber, je vais m'accorder la grande liberté d'en faire plutôt une paraphrase, c'est-à-dire que je suis le fil directeur de l'œuvre, ses thèmes principaux, mais tout le reste, j'aurais écrit pour en faire une super belle œuvre pour piano. Voilà, c'est comme ça qu'elle est née.
Votre carrière en tant que pianiste et compositrice est très impressionnante. Qu'est-ce que vous a initialement attiré vers la musique classique et le piano en particulier ?
C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'étant valaisanne, en fait, on entend plutôt de la fanfare ou des choses comme ça que de la musique classique. Mais moi, j'ai de la chance parce que mes parents, depuis leur plus jeune âge, étaient amateurs de musique classique. Ma maman jouait très bien du piano et chantait. Et en fait, du coup, tous les soirs, en allant me coucher, je l'entendais jouer du piano, du Mendelssohn, du Schumann. Elle m'a vraiment donné l'amour du répertoire romantique allemand. Et puis du coup j'ai eu envie de jouer du piano, j'ai fait des cours de piano, j'ai commencé à 8 ans, assez tard. Et moi, mon choc esthétique et ma vocation, elle est née à l'âge de 11-12 ans en entendant pour la première fois le 2e concerto de Brahms. Ça a été un choc cosmique pour moi, ça m'a enlevé le sol sous les pieds, j'ai plus dormi, c'était une épiphanie en fait, vraiment. et de ce jour-là, en fait, c'était clair que c'était ma vocation de servir cette musique magnifique.
vos enregistrements sont influencés par la spiritualité et le mysticisme européen. Comment ces thèmes se manifestent-ils dans votre interprétation de la musique de compositeurs tels que Bach et Liszt?
C'est vrai que, en fait, pour moi, ma forme de religion, c'est la musique. Du coup, je pense que je la pratique avec beaucoup de sérieux et d'adoration. Et j'essaye de la servir plutôt que de m'en servir. Parfois, la limite est ténue, hein, comme interprète. C'est vrai qu'on est au centre de la lumière, on est sur scène. C'est nous qui ramenons à la vie cette musique. Mais je crois que c'est bien de toujours se souvenir qu'en fait, on est là pour servir une beauté incroyable, pour un espèce de canal entre un créateur et un public. Et ouais, c'est un peu comme ça que je perçois la musique.
Vous m'avez dit que vous avez un projet en cours avec des artistes de disciplines variées. En l'occurrence, le patineur Stéphane Lambiel et la compagnie de danse contemporaine Cocoon Dance. Comment sa collaboration enrichit-elle votre pratique musicale ?
Bien, c'est vrai qu'en étant pianiste soliste, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ma vie artistique seule. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant, avec l'âge, que j'ai besoin de synergie, j'ai besoin de l'inspiration d'autres artistes. Je pense que aussi ça sert la musique classique, qu'elle s'associe à d'autres formes d'art pour gagner des publics nouveaux. Et puis, je trouve en particulier que la danse et le patinage artistique de Stéphane Lambiel, qui est très proche de la danse, sont deux formes d'art en fait qui donnent une dimension visuelle magnifique à la musique et puis aussi qui donnent une dimension au temps qui est présent dans la musique. En fait, c'est du temps dessiné en mouvement, la danse, si on veut bien.
Vous avez été désigné artiste associé des festivals de Wallonie en 2023. Comment cette reconnaissance a-t-elle influencé votre parcours artistique et vos projets futurs ?
Bien, c'était une chance extraordinaire parce que en me nommant artiste en résidence, ils m'ont aussi donné la possibilité de faire le choix de programme, de répertoire et de projet que je voulais. Donc, ils m'ont fait une grande confiance. C'est évidemment quelque chose qui encourage et puis qui donne des ailes. Ils m'ont permis de jouer mes œuvres. Moi, ça m'a permis de créer aussi des liens très forts avec la Belgique où j'ai beaucoup d'amis. Et puis, j'observe aussi ce que font les festivals de Wallonie. Hein. C'est toutes des choses qui, moi aussi, comme directrice de festival, m'inspirent.
Directrice de festival Les Ondes, en Suisse, qui se sont achevées tout récemment. Quelle est votre vision pour ce festival et comment choisissez-vous les artistes et les programmes ?
Ma vision pour ce festival, c'était de faire un festival dans lequel moi, comme artiste, j'aurais du plaisir à jouer et puis comme public, du plaisir à l'écouter. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on lâche un peu le décorum qui est parfois souvent associé à la musique classique dans les grandes salles. Oui.
C'est-à-dire ?
Il faut être bien habillé, il faut être bien élevé, on ne peut pas applaudir quand on veut. On se sent jugé, en fait, comme public, ce qui est quand même le comble. Enfin, et en fait, du coup, dans mon festival... Eh bien, tout le monde vient évidemment habillé comme il veut, mais on l'a délocalisé. C'est dans un endroit magnifique, au bord d'un étang en pleine nature, dans un pavillon qui est tout en bois. Ça sonne magnifiquement bien. Et puis, on a monté un vrai site de festival autour. Il y a des cantines, bars où on peut boire des coups, mais aussi se restaurer. Puis, je voulais faire un festival immersif où, en fait, il y a 8 concerts en 48 heures. Mon idée, c'est que les gens viennent passer leur week-end avec nous et puis qu'on les immerge dans de la beauté pour qu'ils recommencent le lundi avec plein de bonne énergie.
Si vous nous prenez en cours de diffusion, nous sommes en compagnie de la compositrice suisse Béatrice Beru devant le temple de la Madeleine où elle s'apprête à jouer en ce 4 juin dans le cadre de la 13e édition des Athénéennes, ici donc à Genève. Et nous relatons un tant soit peu son parcours, sa carrière musicale et ses différentes inspirations. Quelques minutes encore avant de vous libérer, puisque vous partez pour les petits essais, la petite répétition avant le spectacle qui débute dans moins de 3 heures. Votre inscription des symphonies de Mahler pour piano a reçu de nombreux éloges. Qu'est-ce qui vous inspire dans la musique de Mahler et comment abordez-vous la transformation d'un orchestre en une pièce pour piano ?
Ce qui me fascine dans la musique de Mahler, c'est son intégration d'éléments de musique folklorique. Je trouve que c'est une intégration tellement parfaitement réussie et pas du tout caricaturale. Et ça me touche vraiment parce qu'en fait, ça donne à cette. Enfin, je trouve qu'il y a dans sa musique, du coup, une grande dimension spirituelle et d'un autre côté, une grande dimension folklorique, simple. En fait, elle rassemble un peu deux pôles qui sont très éloignés les uns des autres. Alors, évidemment, transcrire du Mahler pour le piano, c'est quelque chose de difficile où il faut être d'accord de sacrifier beaucoup de voix. On n'a pas les moyens de jouer comme un orchestre de 80 musiciens. Mais transcrire, c'est toujours ça, en fait. C'est saisir l'essence d'un message et puis le traduire pour qu'il soit compréhensible. Et finalement, en fait, mon but, c'est d'offrir au public des œuvres pour piano qui sont de nouvelles œuvres pour piano et puis pas une réduction d'une symphonie de Mahler.
En tant qu'artiste des pianos Besonderfer, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, vous allez pouvoir me rectifier si c'est le cas, depuis 2013 donc, comment cette collaboration a-t-elle influencé votre son et votre technique pianistique ?
En fait, c'est effectivement quelque chose qui influence énormément mon son, vu que c'est des instruments qui ont une esthétique sonore très différente des Steinway ou des Yamaha. C'est des instruments qui ont une âme très forte, une personnalité que moi je trouve très forte.
La maison a d'ailleurs été reprise par le groupe Yamaha.
Exactement, et en fait, à l'époque, on s'inquiétait un peu de savoir ce qu'allait venir Besonderfer, mais moi, à l'époque, j'étais pas chez Besonderfer. En fait, c'est du moment que Yamaha a repris cette fabrique qu'ils ont pu réinvestir de l'argent pour refaire de la recherche, pour développer des prototypes de pianos qui sont maintenant absolument exceptionnels. Donc en fait, c'était une grande aubaine.
C'est la Rolls des pianos ?
Pour moi, oui, c'est vraiment les plus sublimes. C'est vraiment une esthétique de son que j'aime parce que c'est des registres qui sont très différents les uns des autres. Ou par exemple sur les Steinway, les registres sont un peu plus égaux entre en fait du coup chez Besonderfer, il y a ce côté un peu instrument ancien d'époque des pianos fortés qui avaient des grandes différences de registres et ça se prête du coup super bien je trouve pour mes transcriptions orchestrales parce que j'ai envie d'avoir des bois qui sonnent tout à fait différemment des contrebasses.
Vous avez déclaré, pour mettre un terme à notre entretien, qu'il n'y a que de la bonne et de la mauvaise musique. Comment cette philosophie influence-t-elle votre choix de répertoire et votre approche de la musique en général ?
Ça me permet de m'approprier des chansons de Muse, par exemple, que moi je mets absolument sur un piédestal, comme toute la musique classique que je joue autrement. Et je crois qu'en fait, qu'il y ait une espèce de perméabilité entre les genres de musique maintenant, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui s'est perdu, c'est quelque chose que justement chez Mahler et chez Brahms et même chez Bartok, il y avait beaucoup en fait. C'était pas une musique qui s'était encore trop enfermée dans sa tour d'ivoire et je crois que c'est vraiment important pour qu'on continue d'inscrire cette musique classique dans le 21e siècle, c'est qu'elle continue d'évoluer en fait.
Merci à vous, Béatrice Berru, pour ces quelques instants de notre compagnie. On a profité justement de la 13e édition des Athénéennes pour nous entretenir avec vous. Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée à l'écoute de Radio Cité Genève 92.2 FM. Cet entretien est à réécouter en intégralité sur le site de la radio, radiocité.ch. À tout bientôt.
Au revoir, merci.